Salut, moi c'est Niki.
Moi c'est Bi.
Bienvenue dans le podcast Madame Attrape ton cœur.
Nous sommes deux copines d'origine camerounaise et bissaouguinéenne qui ont quitté nos vies parisiennes pour s'installer à Abidjan.
Dans ce podcast, nous parlerons d'identité, de carrière professionnelle, de relations humaines, de féminisme
ou de santé mentale, de culture et de sujets qui nous tiennent à cœur.
Cette saison, petite nouveauté, nous recevrons des personnes inspirantes pour des discussions intimes.
À quoi bah ?
Hello Niki, comment ça va ?
Bah écoute, ça va.
Bah en vrai, ça va pas, non ?
Non, ça va du tout.
Faut dire.
Ça va pas, je suis fatiguée. Je sors de 2 heures d'embouteillage. Donc franchement, pour enregistrer cet épisode, franchement, c'est dur.
C'est dur. T'es courageuse.
Yes, embouteillage d'Abidjan, c'est pas de la blague.
Mais si tu...
Hein ?
Non, j'allais dire, du coup, autant qu'on commence avec tes nouvelles, comme ça tu souffles après.
Ouais, ouais. Je n'ai pas de nouvelles en particulier. C'est juste, bon, voilà, les embouteillages, c'est un grand exercice de patience. Donc, ouais, et j'ai remarqué que j'ai changé. Donc, je le partage.
Tu as changé. Dans quel sens ?
Bah, dans le sens où je suis plus très impatient. J'ai pas envie de gifler tout le monde sur la route. Donc, j'ai changé dans ce sens-là. Je prends mon mal en patience dans les embouteillages. Là, j'ai tapé 2 heures. J'avais même pas de musique. Je rêvassais et tout.
Sérieux ?
Je te jure.
Sans musique ?
Sans musique, rien. Je rêvassais. Je prenais mon temps. Et ça, c'est grâce à une vidéo de Serge Marquis. Qui s'intitule « On est foutu, on pense trop ». Et c'est disponible sur YouTube. C'est un peu long, c'est plus d'une heure. Mais c'est de belles leçons de vie. Et je pense que depuis que j'ai... Enfin, c'est des trucs courants, hein. C'est pas... Enfin, il a pas inventé les choses. Mais dans le sens où ça a fait un déclic, tu vois. Je suis plus trop pressée au feu rouge. Enfin, je klaxonne pas dans tous les sens. Je prends mon temps, quoi.
Ouais, juste un truc de contexte, c'est que la circulation en Côte d'Ivoire, c'est la jungle et c'est la loi du plus fort.
Ouais, voilà.
Surtout à Abidjan.
Surtout à Abidjan, ouais. Et franchement, les embouteillages, c'est pas de la blague, quoi. C'est vraiment pas de la blague. Donc voilà pour mes nouvelles. Et toi ?
Ok. Bon, il faut que je regarde ta vidéo parce que je suis intriguée. Hein.
Non, franchement...
Quand j'étais ta copilote plusieurs fois, je suis intriguée.
Non, franchement, je suis plus sereine. Même quand je suis en retard, je me dis, bon, de toute façon, tu y es déjà, tu vois. Tu vas t'énerver à qui, enfin, la question qu'il pose dans la vidéo, qu'il faut se poser, à qui tu fais du mal? C'est à toi.
À toi-même, c'est vrai.
Donc, une fois que tu te dis ça, tu dis bon, écoute, let's go.
Ok, ouais. Ça marche. Moi, mes nouvelles, c'est que bon, il y a des fois, je passe du temps sur Clubhouse. Ça m'arrive.
Mmh.
Et bon, d'habitude, j'écoute des trucs aléatoires. Et là, j'étais tombée sur une room sur le village Afroprenariat.
D'accord.
Donc, je suis souvent très sceptique sur tout ce qui se passe en lien avec l'entrepreneuriat, parce que je trouve que parfois, c'est beaucoup de blabla.
Ouais, il y a beaucoup de VI.
Ouais, sans en arriver là, mais voilà. Donc, du coup, ce que j'avais bien aimé sur cette room, c'est qu'il parlait du recrutement en Afrique.
Ouais.
Donc, c'est un peu en lien avec l'épisode précédent,
ah, nice.
Daniela.
Mm-hmm.
Mais là, c'était vraiment des chefs d'entreprise qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui ouais. racontaient leur retour, que ce soit principalement en Côte d'Ivoire et au Sénégal.
D'accord.
Et donc, comment ils recrutaient, les difficultés qu'ils rencontraient, le choix entre devoir former des salariés locaux ou de recourir à des expatriés.
Ouais.
Comment ils pesaient sur la balance. Et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est quand ils ont parlé de la sécurité des femmes au travail.
Mmh.
Ouais. Et au début, c'était un peu un clash entre la vision des hommes et des femmes.
Ouais.
Parce qu'il y a des hommes qui comprenaient pas totalement le point de vue des femmes, qui disaient que t'avais le harcèlement sexuel, mmh. le fait de te faire draguer constamment, etc. Donc certains ont nuancé ça, puis après ils ont fini par comprendre.
Ouais.
Là où j'étais sur le cul, c'est quand ils sont arrivés sur le droit de cussage.
D'accord.
Bon. Ces histoires de promotion, il faut coucher pour obtenir. Ouais. Donc, moi, au début, je pensais qu'ils allaient parler de ça et je me suis dit, bon, on connaît tous, passons ouais. à autre chose. Et finalement, en fait, ils sont venus à parler d'autre chose, dans le sens où y a deux chefs d'entreprise qui disaient qu'ils avaient des femmes dans leur staff à qui ils ont donné des promotions parce qu'elles le méritaient, elles travaillaient super bien, ouais. etc. Mais c'était pas rendu compte de l'importance de cette culture du droit de cussage, que ça venait même dans les foyers, en fait, des individus. Parce que ces femmes, en l'occurrence, elles étaient toutes mariées. Et les maris ont cru, en fait, qu'elles avaient couché pour avoir leur promotion.
Merde.
Ce qui a créé, en fait, des conflits Il y en a une, elle a dû quitter la maison, ça a fait un gros conflit avec son mari, donc ils ont dû expliquer à son mari que non, en fait, ça n'avait rien à voir, c'est que ça, la femme méritait sa promotion. Et donc, mine de rien, d'entendre ces hommes qui expliquaient vraiment que eux n'avaient pas capté que ça pouvait avoir un impact et qu'en fait, les promotions, même dans certains milieux, fallait préparer l'entourage, en fait, à recevoir cela. Je me suis dit, ouais, il y a vraiment des choses sur lesquelles faut travailler. Il faut pas être fixé sur un élément, mais faut prendre vraiment l'écosystème, en fait.
Ouais.
Donc, vraiment, j'ai apprécié cette room.
Bah, quand est-ce que Clubhouse vient sur Android? On n'a pas tous des iPhones. On n'a pas tous l'argent.
Je crois que c'est sur Android, hein.
Sérieux?
Ouais, ouais.
Ah, bah, je vais checker ça, alors.
Non. C'est intéressant, il y a des trucs aléatoires.
Ouais. Bah, du coup, ouais, c'est très pertinent, ce que tu dis. Parce que justement, c'est ce qu'on... Enfin, je fais un petit focus sur le développement. C'est ce qu'on... Moi, de ma formation, enfin, voilà. J'ai une formation dans ça. On disait, bah, quand t'arrives quelque part, tu veux pas... Il faut pas juste changer un élément, tu vois. Faut vraiment prendre l'ensemble en compte, voir les différents pouvoirs, les différents forces en jeu avant de prendre une décision, quoi. Sinon, tu déséquilibres tout un écosystème et t'es pas prêt forcément pour toutes les répercussions qu'il y aura, quoi.
Ouais, donc vraiment c'était super et vraiment le mot qu'ils utilisaient, la sécurité des femmes au travail, c'était pertinent.
Ah nice, ok, c'est cool.
C'était mes nouvelles.
Bah c'était top comme nouvelle.
C'est bien. Nouvel épisode, cette fois-ci on n'a pas d'invité, ou peut-être on a un invité imaginaire, on sait pas.
Non, faut pas dire ça.
Ah, c'est possible, parce que c'est en lien avec l'épisode.
On est nous deux. Il n'y a pas d'esprit ici, je rigole.
Donc, du coup, pour cet épisode, on a décidé de revenir sur un temps fort de l'année.
Ouais.
Donc, après 4 ans passés toutes les deux ici en Côte d'Ivoire, on est chacune rentrées dans nos pays respectifs.
Ouais.
Pour des séjours très marquants.
Ouais, courts mais très marquants, ouais.
Ouais, donc c'est pour ça que je parlais d'esprit, peut-être que l'esprit du...
comme toi.
Et du coup, je pense que ce serait bien d'en parler parce que là, on est parti avec cette expérience, ce bagage ivoirien.
Ouais.
Ce qui fait que le séjour était sûrement différent des fois précédentes.
Oui, totalement.
Ouais. Donc, je sais pas si tu veux commencer, nous expliquer comment c'était au Cameroun.
C'est le Cameroun, terre de nos ancêtres.
Dit-elle en gesticulant.
En tout cas, bah écoute, le Cameroun, moi j'y suis allée après 4 ans, ouais, après 4 ans, après tout ce travail de quête identitaire qu'on a fait quand même pendant la saison 1, je suis allée dans le cadre du travail.
Mmh.
Donc pas de vacances, rien, donc j'ai même pas eu le temps de voir la famille parce que c'était très express, mais une appréhension, mais max, j'étais terrifiée. J'étais terrifiée parce que, enfin, j'étais à Douala et ça faisait peut-être plus de 15 ans que j'ai pas mis les pieds là-bas, quoi.
Ah ouais.
Je savais pas à quoi m'attendre. Bref, j'ai appelé toute ma famille, j'ai appelé mes amis camerounais que je connaissais, enfin, ouais, voilà, pour me rassurer, pour me faire un petit débrief. Pour la seule et unique raison, c'est pas comme si j'allais en zone de guerre, rien à voir, mais c'est juste que, bah, avec tout le travail, justement, sur la quête identitaire qu'on a fait, bah, en fait, j'avais juste peur de pas me retrouver, j'avais peur d'être une espèce d'imposteur, en fait. Mm-hmm. Qu'on me dise, ah, elle est pas vraiment camerounaise, tu vois. Alors que, concrètement, les gens s'en fichent de toi, hein. Tu te fais des montagnes dans ta tête, mais, bon, les gens, ils ont pas ton time. Bref. Et, ça s'est plutôt bien passé. Franchement, j'étais contente, en fait. J'étais contente de retrouver mon pays, mine de
rien. C'est nice, parce que là, je vois toutes tes gencives.
J'étais contente de retrouver mon pays, mine de rien. Je me suis dit, waouh. En fait, je savais même pas que ça m'avait manqué. Je savais même pas. Ouais. Enfin, c'est pas un manque dans le sens où il y avait des choses que j'avais laissées ou quoi. Non, ça me manque mes racines, on va dire. Ça me manque qu'on prononce bien mon nom et qu'on l'écorche pas, n'est-ce pas. Ça me manque nos plats. Ouais. Je me souviens, j'étais avec un pote. À chaque fois qu'on se voyait, je dis, bon, je veux manger tel plat aujourd'hui. Je veux manger tel. Enfin, t'as même pas. Je pense qu'en 6 mois, tu peux pas manger tous les plats qu'il y a au Cameroun. C'est pas possible, tu vois.
Ah ouais, c'est riche. Hein.
Tu peux pas. Donc voilà, vraiment une expérience très riche. Quelques faits marquants, c'était... Moi, je suis la première fois que je suis repartie, parce qu'en tout temps, je suis partie une deuxième fois. La première fois, c'était le retour de Francis Ngannou. champion du monde de boxe. Je vais pas m'avancer sur la catégorie de boxe parce que je maîtrise pas. Donc je sais pas, ouais, bref. Champion de boxe et tout, la vie était en effervescence. Enfin voilà, c'était vraiment le retour de l'enfant prodige au pays, tu vois.
Les vidéos étaient belles. Hein.
Ouais, les vidéos étaient belles. Donc dis-toi que je me suis tapé ça pendant 3 heures de trajet à la radio. Francis Ngannou, il est revenu. Pendant 3 heures. Sauf que une chose qui m'a un petit peu marqué, c'est qu'on faisait, enfin il a pas démérité, tu vois, il rentre au pays et tout se passe bien, mais il y avait cette espèce de culte de la souffrance, tu vois.
Dans
quel
sens ?
Il vient d'un milieu défavorisé, il a pris la mer pour arriver là où il est arrivé, etc., etc. Et plusieurs fois, on l'a répété. Je suppose que ça fait partie de son storytelling, tu vois. C'est son histoire, c'est propre à lui et tout. Mais à aucun moment, il y a eu une remise en question, tu vois. Enfin, combien de Francis Ngannou est-ce qu'il y a qui prennent la mer et qui arrivent à être Francis Ngannou, tu vois ? Combien ? Il y en a combien ?
Sur les limites, c'est comme si on encourageait les jeunes.
Exactement.
À faire ce
pendant 3 heures, il n'y a qu'une seule fois où le journaliste a dit « Bon, on n'encourage pas les gens à prendre la mer, mais pendant... vous avez eu 3 heures. Vous avez eu 3 heures, pendant les 3 heures, vous avez dit que oui, il venait d'un milieu défavorisé, oui, il a fait ceci, oui, il a pris la mer, etc., etc., tu vois. » Pour moi, enfin, on l'acclame, c'est l'enfant prodige et tout, il fait la fierté du pays, oui, mais on devrait aussi lui présenter des excuses, parce que, enfin, pas nous, les gens responsables, n'est-ce pas ? Parce que quand même, on a failli, je suis désolée. Il a dû quitter la misère dans laquelle il vivait, traverser la mer avec tout ce qu'on a comme conséquence quand on traverse la mer, l'esclavage, enfin la mort, enfin la mort, faut dire ce qui est,
tous les traumatismes
possibles et imaginables, et enfin voilà, à aucun moment il y a une remise en question, tu vois. Donc voilà, c'était un petit truc qui m'avait marqué. C'était le premier jour, c'était normal, tu vois. Deuxième petite anecdote, c'était j'ai beaucoup à dire. C'était la rencontre avec un séparatiste.
Un séparatiste, dans quel sens ?
Faut savoir que ça va faire... On est dans la 5e année, là, si je me dis pas de bêtises, que la zone anglophone est déstabilisée au Cameroun. Et tu as une partie de la population qui veut que cette zone-là soit séparée du Cameroun en entier. Donc on les appelle communément les séparatistes. Voilà, t'as différents mouvements, t'as ceux qui prennent les armes, t'as... Voilà. Et le monsieur, bon, pendant des entretiens de travail et tout, à la fin, je me présente, je dis, bon, écoutez, je travaille en Côte d'Ivoire, mais je suis camerounaise et tout, voilà, voilà. Il dit, ah oui, moi, je suis anglophone et tout, je suis un séparatiste. Je fais, pardon.
Attends, il s'est présenté comme ça ?
Oui. Je suis pour la séparation de Southern Cameroons, de francophone Cameroun, tu vois. Je dis, ah ouais. Il me dit, non, parce qu'on souffre trop et tout, l'État ne nous écoute pas. Tu vois, ça m'a fondu le cœur, parce que pendant, si tu veux, moi j'ai grandi dans cette zone-là, j'ai grandi dans le sud-ouest du Cameroun, et je me dis, enfin, une séparation, enfin, je sais pas, j'ai des parents qui sont francophones, j'ai grandi au sud-ouest, pour moi c'est inconcevable dans ma tête, tu vois, mais entendre le récit de ce monsieur, je me dis, bon, enfin, il est de l'autre côté, il vit tout ça, enfin, il a des parents qui se sont fait tuer dans cette guerre-là, enfin voilà, t'as toutes sortes d'histoires les plus sordides, des enlèvements, enfin voilà, vraiment des trucs de ouf, et tu te dis, bon, en fait, tu peux comprendre. L'État ne t'écoute pas, bah écoute, si la seule solution c'est de te séparer de cet État-là, pourquoi pas, tu vois.
Mais du coup, je suis curieuse parce que finalement, donc, il y a une scission qui est liée à la langue, mais aussi à des ressources.
Ouais.
Mais est-ce que, du coup, ces personnes qui sont dans ce côté-là du Cameroun, pour eux, se sentent vraiment comme Camerounais ou ils ont une autre identité à leurs yeux ?
Bah, ils sont anglophones. Ils sont anglophones. Après, c'est un peu compliqué, hein, je trouve, le Cameroun, pour ne pas rentrer dans la géopolitique et tout ça, parce que je ne maîtrise pas. T'as quand même plus de... Ouais, si je ne dis pas de bêtises, plus de 200 ethnies. Et tu veux mettre une bannière Cameroun autour, c'est bizarre, tu vois.
Heureusement, c'est l'héritage de la plupart de nos pays africains.
Donc, t'as pas... Enfin, oui, on sera Camerounais. On est Camerounais, oui. Mais déjà, t'as beaucoup de tribalisme qui sévit. T'as beaucoup de... Enfin, voilà. Donc, c'est compliqué. Je veux dire, c'est compliqué. J'ai pas de réelle réponse, à vrai dire.
Du coup, dans cette zone-là, c'est les ethnies qui sont présentes. On les trouve que dans cette zone-là ou tu peux les retrouver dans d'autres parties du Cameroun ?
Ils sont originaires de cette zone-là.
Ok.
Après, bon...
Oui, donc après,
les gens se déplacent, quoi. Mais ils sont originaires de cette zone-là. Donc voilà, enfin ça c'était juste deux anecdotes, hein. ça n'a en rien déterminé mon séjour. J'aimerais bien y retourner.
Ouais.
Pourquoi tu dis ouais? Tu vas faire croire aux gens que...
Non, c'est pas ça. C'est juste que t'appréhendais tellement que je me suis dit, si le séjour se passe de manière assez étrange, ouais, tu vas te fermer en disant non, c'est bon.
Ouais, c'est vrai.
Je me déplacerai que quand c'est vraiment nécessaire, quoi.
Après, pour les Camerounais qui nous écoutent, c'est pas que je déteste pas mon pays, hein, c'est juste que bon, voilà, j'ai une histoire particulière avec ce pays-là, qui est personnelle, donc que je ne partagerai pas ici. Mais bon, voilà. En tout cas, très contente de mes deux séjours. Et toi? Désolée, j'ai beaucoup parlé.
Non, mais contente de l'apprendre, surtout que je te balance, hein. Mais quand t'es revenue, t'as dit, ouais, il faut qu'on fasse un road trip au Cameroun.
Non, mais c'est vrai, le Cameroun est magnifique, magnifique, je te jure, surtout, enfin, non, je vais pas te dire surtout. Il y a une région en particulier que je visitais, je suis originaire de l'Ouest. Donc, franchement, faire les chefferies de l'Ouest, je t'avais envoyé, la story de My Travels. D'ailleurs, coucou à elle, si elle nous écoute. Mais c'était juste oufissime, tu vois. J'ai enregistré, moi, c'est un truc que je vais faire.
Ok.
Et je vous ai dit, on va faire c'est pas un road trip, c'est un food trip. Je pense pas que vous aurez assez de jours pour manger tous les plats camerounais, mais c'est un food trip, les gars.
Ok, moi, je suis curieuse. Allons-y. Tant que y a des fois, si je peux trouver du riz pour calmer mais certaines si, choses.
Ça, forcément le riz, voilà. Ça va. Comment les sahéliens, là?
Bref, on est mangeurs de riz.
Je suis chez vous.
Alors, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays sahélien.
C'est en haut. C'est là-bas, là. Vous n'êtes pas vers l'équateur.
Voilà.
Pardon, ne me tapez pas. Vas-y, et toi, Bi?
Bah, du coup, moi, j'étais très contente aussi.
Oui.
J'appréhendais énormément. Ça faisait 10 ans que je n'étais pas allée.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, en 10 ans, moi, j'ai beaucoup changé. J'ai vécu pas mal de choses qui ont un peu façonné ma vision des choses.
Ouais.
Et la situation aussi de ma famille, parce qu'il y a 10 ans, la part de mes cousins étaient tous célibataires, ouais, sans enfants. Là, ils sont tous mariés avec enfants. Il y en a qui ont les cheveux blancs aussi. Ouais. Et finalement, la ville aussi. Donc moi, je suis plus restée à Bissau dans la capitale, mais ça a vachement changé, hein. Et bon, pour la petite histoire, la Guinée-Bissau a eu un passé quand même assez difficile politiquement, ouais, très instable. Moi, quand j'étais il y a 10 ans, il y avait eu une altercation. Quelqu'un avait été tué, tout ça, dans les hautes sphères militaires. Donc du coup, c'est ce pays-là où, bah, quand tu vas, tu te dis, bon, tu sais pas ce qui va se passer.
Ouais.
Donc là, depuis quelques années, c'est quand même plutôt stable. Mmh. Donc c'était assez rassurant. Et après, j'étais trop contente de manger la nourriture de chez moi. Oh là là, j'ai passé mon temps à manger. Et à chaque fois, j'avais des demandes extraordinaires. Je mangeais tel plat, je mangeais des grosses gambas, je mangeais ci et tout. Donc, ça fait toujours plaisir de manger la nourriture qu'on connaît. Ouais. Et même, tu vois, l'estomac reconnaît cette nourriture n'importe quoi. J'ai pas eu de problème gastrique. Non, j'étais contente. Et d'entendre la langue aussi. Et c'est là où ça m'a rappelé aussi que l'histoire du pays est particulière, parce que culturellement, on est dans cette zone sahélienne, si tu veux,
ouais,
en bordure de l'eau, mais on est différents de nos voisins. Après, c'est peut-être cette présence lusophone qui a changé les choses, mais on a une manière de vivre qui n'a rien à voir avec nos voisins.
D'accord.
Donc, et c'est là aussi que je me suis rendu compte pourquoi j'aimais tant Abidjan.
D'accord.
Il y a cette culture de festive, d'hospitalité, ouais, de détente. Les gens sont trop cool. Beaucoup trop détendus, même.
Ouais.
Mais du coup, tu vois, c'était franchement, c'était agréable. Et choses qui m'ont marqué. La première chose, c'était un peu particulier, c'est que moi, j'étais dans la période de juin. Ça correspond à un événement tragique chez nous en 98.
Ouais.
On avait eu le début de notre guerre civile. Donc j'étais à la période de commémoration, donc j'entendais toutes les histoires de guerre. Et moi, en 98, j'étais petite.
Oui.
J'ai failli y aller, je devais y aller d'ailleurs. Ça s'est pas fait, ma mère était restée coincée là-bas.
Donc ah ouais, ouais,
j'avais ces petits souvenirs de mon père qui paniquait, tu sentais le stress, mais en même temps, t'es petite, donc t'arrives pas à totalement percevoir. Et d'entendre tous ces récits de guerre, parce que du coup, une bonne partie de ma famille appartient au monde militaire. Donc certains te disent qu'ils ont failli mourir.
Ouais.
Qu'on t'explique comment le traquenard avait été pris en place, et de voir à quel point en fait ça a traumatisé tout un peuple. Jusqu'à maintenant, tu le sens. C'était hyper marquant. parce que souvent on a tendance à lire des récits ou à entendre à la télé ou à la radio que bon, tel pays a eu telle guerre, après c'est fini, on passe à autre chose. Mais on parle pas des traumatismes en fait qui restent dans la nation.
Exactement, ouais.
Et comment, bon, bah apparemment, tu connais les histoires, hein, t'as dit que à partir de là, le pays n'a pas pu se lever à cause de ça.
Ouais.
Mais franchement, j'ai bien aimé, j'ai eu des bouquins, tout ça, pour lire ces témoignages-là. Et après, dans un truc plus drôle, c'est que j'ai connu le passage de la pression sociale du mariage.
Heureusement que je suis allée en mission, je suis pas allée en famille.
Dans le top 5 des questions, es-tu mariée et as-tu des enfants? Ça revenait tout le temps, on me demandait pas mon bien-être, ma carrière professionnelle.
On fait rien avec ça. Ouais. C'est pas ton rôle en tant que femme.
Non, c'est
ton
vrai.
Rôle, c'est de te marier et avoir des enfants.
Donc j'ai eu plein de bénédictions. Surveillons ça. Mais c'est vrai que j'avais oublié cette histoire de pression sociale parce que ici, bah, je l'ai pas.
Bah, ouais, on est seul, donc.
Ouais. Et mes courts séjours en famille, on passe pas trop de temps dessus.
Ouais.
On va discuter vite fait, mais ça représente rien de mon séjour. Et là, le fait qu'on me le répète. Et en plus de voir tous tes cousins et tes cousines qui ont ton âge, qui sont calés, casés et tout ça. J'ai senti un peu cette pression. Et ça m'a rappelé les discussions qu'on a avec nos potes ivoiriens qui disaient que ouais, c'est un peu particulier. Et c'est quand t'as la famille qui te répète, tu fais quoi? C'est quand ton mariage, etc. Ouais. Donc c'était le petit truc un peu plus fun ou moins fun. Mais ça m'a vraiment marqué. Et je suis satisfaite de mon séjour.
Ah, nice. Tu es retournée?
Bien sûr.
Oh, voilà.
C'est sûr que j'ai trouvé comment y aller pour moins cher. Donc ça y est.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, nice.
Oui, ça. Parce que, je l'ai pas dit, mais la Guinée-Bissau, qui est en dessous du Sénégal, c'est pas si loin que ça de la Côte d'Ivoire, mais j'ai dû faire tellement de pays pour y arriver. Je suis passée par le Togo, après je suis passée par le Sénégal, et après je suis arrivée en Guinée-Bissau, parce qu'il n'y a pas de vol direct. Je suppose que commercialement parlant, c'est pas très intéressant.
Ouais.
Et ça coûte la peau du cul. Hein.
Ah oui, franchement, voyager dans l'Afrique, mais c'est incroyable. Sans compter les visas, mais le Cameroun, je sais pas pourquoi. Bon, bref, je vais pas parler. Le Cameroun, le visa qui a augmenté. Le visa est passé à plus de 100 000.
Non, déjà, je trouvais que 100 000, c'était cher.
Non, mais, enfin, bref. Et le billet d'avion, c'est le même prix qu'un Paris-Abidjan.
Moi-même, c'est plus cher que Paris-Abidjan.
Ouais. Donc, je sais pas, franchement, c'est ouf. On est la génération qui veut bouger, on est la génération qui aime voyager, qui veut faire d'autres pays d'Afrique, mais j'ai l'impression qu'on nous donne pas les moyens, quoi.
Bah non, parce que même discussion avec mes cousins ou amis en Guinée-Bissau qui me disaient c'est trop bien, on aimerait trop venir te visiter en Côte d'Ivoire, ça coûte combien? Je donne le prix du billet. Ah, il y en a plein qui sont découragés. Bah, ils disaient autant aller en vacances en France ou au Portugal.
Mais bien sûr. Et ce qui est dommage, et pourtant il y a du trafic, hein. Je peux te dire que quand tu prends les avions Air Côte d'Ivoire et tout ça, là, ils sont blindés.
Ah, c'est blindé aussi.
Ils sont blindés. Donc je comprends pas. Anyway.
Non, c'est dommage. Ouais, mais en tout cas. Expérience à refaire.
À renouveler. Ah oui, oui, oui.
Je vais vous embarquer. Prépare-toi à manger des fruits de mer.
Ouais, bon, on en reparle.
Il y a du riz.
Alors, donc c'était tout hein, pour ce court épisode. C'était important qu'on en parle, qu'on parle de ce séjour parce que, mine de rien, on a quand même beaucoup discuté sur encore la quête identitaire qui reste une fois de plus notre épisode le plus écouté.
Effectivement.
Merci à vous. Et c'était, enfin du coup on voit l'évolution en fait. Quelque part on s'est réconcilié avec tout ça.
Ouais.
Moi personnellement quand je suis allée au Cameroun, j'y suis allée en mode bon écoute tu es étrangère, c'est un fait, accepte-le et sois ouvert, tu vois. Donc j'avais les yeux qui brillaient, je captais tout, j'apprenais tout. Enfin je pars du principe que je recommence à zéro, tu vois, la page est vierge. Et comme ça on vit mieux les choses, je trouve.
Ouais, et moi, à aucun moment, on m'a renié mon identité bissau-guinéenne.
Totalement.
Et j'apprenais parce que quand même, bon, je parle créole, mais je parle très mal. Donc, fort accent, etc., c'est moche à entendre. Mais à aucun moment, on me disait, ah, donc t'es la bissau-guinéenne française.
Ouais.
Et c'était pas méchant, c'était juste, bah voilà. Ou sinon, on me disait, ah, bon, t'es parti un peu trop longtemps dans un pays francophone c'est pour ça. Tes études, donc t'as perdu l'accent et... Oh, franchement, c'était cool. Je me suis ressourcée émotionnellement.
Ouais.
Et tu sais, j'ai pris des vibes, des coups de vibes.
Donc voilà, c'était important pour moi, la boucle est bouclée. Pour le coup, tu vois. Je pense qu'on est quand même en paix avec tout le travail qu'on a fait jusqu'ici. Et voilà, on attend ce que la vie nous apportera, quoi.
Ce sera bien, t'inquiète pas.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc sur ce, on va passer au kiff du moment.
Ouais.
On va commencer par toi.
Ok, donc pour mes kiffs du moment, donc le premier c'est un livre.
D'accord.
Qui s'appelle, bon, en anglais là c'est pas ça, mais bon, The Secret Lives of Baba Shaggy's Wives. Donc c'est l'histoire...
Pourquoi ça me dit quelque chose ce livre?
Bah, en fait c'est l'histoire d'un gars qui a quatre femmes,
qui
se passe au Nigeria.
D'accord.
Et donc du coup, il y a sa quatrième épouse qui arrive, et donc son arrivée va déstabiliser le fonctionnement du foyer.
D'accord.
Et c'est là où on parle de comment se passe la polygamie, comment est perçue du coup les femmes qui ont fait de hautes études dans des foyers polygames, les aussi le traumatisme des expériences passées, notamment des agressions sexuelles, comment ça a un impact sur ta construction familiale, mais aussi ta cicatrisation. Et enfin, les problèmes de la fertilité dans certains milieux.
Voilà. En plus, le milieu polygame infertile, aïe aïe aïe.
Ouais. Non, c'était super intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je pensais pas que ça me captiverait autant. Et franchement, ça se lit super vite, c'est bien écrit. Et ça procure quelques émotions. J'étais à fond dedans. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et mon deuxième kiff, c'est sur un ton plus léger, très très léger. C'est sur YouTube l'émission qui s'appelle The Blue Therapy.
Ok.
C'est un peu une sorte de télé-réalité d'ailleurs.
Ah oui, j'ai vu. Ouf, j'ai vu un truc de ouf.
Je pense qu'on parle du même passage. Et donc du coup, bon, j'espère que les gens du travail écoutent pas. Mais j'ai regardé ça pendant que je travaillais. Pour me motiver, parce que j'arrivais pas à bosser sur un dossier. Et c'est intéressant comment certains appréhendent la thérapie de couple, même si c'est surjoué, c'est quand même un peu de... C'est la télé-réalité. Mais tu vois quand même que les gens vivent ensemble, ils traversent des étapes, et ils ont des difficultés en fait à communiquer certaines émotions et certaines expériences passées. Et ce qui m'avait vraiment fascinée, c'était la manière dont les hommes appréhendaient la thérapie.
Ouais, ouais, je comprends pas.
C'était, il y en a un déjà, bah, il est venu parce que c'est sa copine qui l'a obligé.
Ouais.
Et donc, du coup, lui, était trouvé assez agressif dans sa manière de faire parce que, genre, il a demandé direct à la thérapeute, c'est quoi ton taux de succès? C'était très, business, tu vois, genre, c'est quoi ton taux de succès? Si ton taux de succès est pas intéressant, moi, je vois pas pourquoi je travaille avec toi.
Ouais.
Ou bien, il est en échange avec sa copine et il dit, il se tourne vers la thérapeute, bah, est-ce que tu penses que c'est normal qu'il ait fait ça?
Ok.
J'étais un peu curieux. Et le deuxième couple, c'était inversement. C'est le gars qui fait venir sa go en thérapie.
Ouais.
Mais il est pas très ouvert dans la discussion. Il parle pas trop. Il y a un côté un peu trop secret, bizarre. Mmh. Tu vois, j'étais en mode de... C'est intéressant, j'ai rigolé, ça se regarde tellement vite. J'adore les télé-réalités. Franchement, ça détend ça.
Ouais, moi, j'y arrive pas.
Du coup, t'oublies.
Ouais, t'oublies le quotidien.
Ouais, non, non, moi, j'aime bien. Voilà. Et pour toi?
Alors, moi aussi, j'ai deux kiffs. Je vais commencer pourquoi pas. Je vais commencer par celui au Cameroun. Bah, pendant mon séjour au Cameroun, j'ai quand même passé un week-end pour tester la ville de Douala, l'enjaillement de Douala, prendre un peu la température. Et franchement, ouais, ça, franchement, c'est sympa. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal.
Douala by night.
Douala by night, yes. J'ai toujours tendance à dire que c'est... On me le disait souvent, mais je comprenais pas, tu vois, maintenant je comprends mieux. Douala, c'est Abidjan plus petit. Dans tous les sens du terme. Pas, comment dire, pas l'infrastructure. Le pouls de la ville.
Mais du coup, j'ai un peu peur, là.
Moi, je n'arrive pas à avoir peur. En tout cas, bref, j'ai assisté à un atelier qui s'appelle Womb Alchemy, de Andrea Bomo. C'est une herbaliste et coach en santé holistique. Donc voilà, elle a organisé un workshop à Douala sur, en gros, la santé de l'utérus. J'ai trouvé ça très pertinent, très intéressant pour mon cas spécifique que je détaillerai peut-être dans un autre épisode, je sais pas, on verra encore, sans réflexion. Et c'était vraiment un moment de partage, de termes, de sororité, on va dire, de bienveillance, et donner des tips sur comment prendre soin de sa santé, de son utérus. Et ce qui m'a marqué, c'était surtout le fait qu'elle, elle organisait, enfin, faut aller sur sa page, elle est très, très inspirante, très motivée, elle a une histoire aussi qui est très touchante, que je n'ai pas spoilée ici, je vous invite à aller sur sa page et regarder.
Je crois que je suis pas arrivée jusque là.
Non, ouais, faut regarder Andrea Beaumeau. Elle a sa page pour tout ce qui est médecine, santé holistique, ça s'appelle Anelia Apothecary. Et c'est là où elle fait des tisanes à base d'un mélange d'herbes, voilà, qu'elle compose pour la santé de l'utérus, justement. Donc, vous pouvez aller sur sa page et son site, regarder. Bon, en tout cas, pendant l'atelier, ah oui, voilà. Ce que j'avais trouvé très pertinent, c'est que elle, par exemple, elle organise son quotidien, son mois, autour de son cycle menstruel. C'est très marrant. C'est très marrant de le mettre de manière centrale. Mais si le cycle menstruel te fait...
Elle a raison, hein.
Ouais. Bah parce qu'en fait, selon tes phases, t'as plus ou moins d'énergie. Et tu peux plus ou moins planifier des trucs. Donc elle disait, pendant la phase d'ovulation, c'est où, là où t'as le plus de pêche, tu rayonnes et tout. C'est là où il faut planifier les nouvelles choses. C'est là où il faut prendre les rendez-vous importants. Ce qu'elle disait, pendant la phase des règles, c'est là où il faut les lots, doucement, ne pas planifier des trucs, vraiment.
Tu restes derrière ton bureau et tu fais que des tableaux Excel.
Voilà, tu restes tranquille. Pendant la phase de l'UTA, c'est là où il faut faire du ménage, voilà. C'était très très pertinent, intéressant ce qu'elle disait. Et voilà, j'espère qu'elle pourra faire un workshop quand même à Abidjan pendant l'atelier à Douala, ça je lui ai dit. Donc j'espère qu'elle nous entend et qu'elle pourra le faire ici.
Elle a un public ici, hein.
Ouais, franchement, c'est hyper intéressant. Et donc je vous invite vraiment à la découvrir. Donc deuxième kiff, c'est un livre, j'en ai parlé. Alors le titre du livre, c'est « Oui mais non merci ». Je t'en ai parlé, je t'ai saoulé avec.
Ouais, c'est mon cadeau d'anniversaire, ouais, que je dois lire.
Qui raconte comment les femmes redéfinissent le monde du travail, le rapport au temps et à l'argent. C'est en lien avec l'épisode précédent d'Aniela. Et ce qui m'a marqué dans ce livre-là, c'est la définition qu'elle apporte au mot pouvoir. Je me souviens, je vous avais envoyé une roue des valeurs pour savoir quelles étaient les valeurs prédominantes de tout un chacun. Et parce que voilà, comme tu l'as dit, moi je voulais me rassurer parce que une de mes valeurs, c'est quand même le pouvoir, tu vois. Et j'ai eu peur, en fait. Je me suis dit, mais c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai soif de pouvoir, ça veut dire, enfin tu vois,
là tu vois ça de manière négative.
Ouais, sachant que le pouvoir, c'est quand on dit que quelqu'un aime le pouvoir, c'est quand même péjoratif, c'est pas forcément très positif comme truc.
Ça l'est davantage pour les hommes que pour les femmes.
Voilà, exactement. Donc quand j'ai vu que le pouvoir était une de mes valeurs, et quand j'ai lu ce livre-là, elle a une autre manière de définir le pouvoir. C'est pas, je vais dire en anglais, c'est pas empower, mais to power, tu vois. Et j'étais plus à l'aise avec cette définition-là, to power. Ça veut dire que j'aime le pouvoir, oui, mais j'aime impulser des choses. C'est pas, j'aime m'accaparer les choses, tu vois. Donc j'aimais bien cette approche-là de sa définition du pouvoir. Et voilà, au-delà de tout ce qu'elle raconte dedans, franchement, c'est intéressant. Donc je vous invite à lire ce livre-là.
C'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait tiquer, parce qu'on pénalise les femmes, mais elles ont un pouvoir énorme pour celles qui peuvent donner la vie. C'est un pouvoir énorme, hein.
Ouais. Ouais. Donc, elles ont le pouvoir. Encore une fois, to power, tu vois. Elles ont le pouvoir, ouais. Même on a le pouvoir, meuf, dans tout, on l'a. Mais dès qu'on dit qu'une femme est en pouvoir, ça y est, c'est un requin.
Elle se perçue de manière négative, mais faut pas.
Ouais.
On est qui on est, en fait.
Exactement. Donc voilà.
Ouais, c'était un super épisode. Hein. Très contente d'avoir un épisode que nous deux.
Ouais, ça faisait. Bon, pas si longtemps que ça. Hein. Ça fait que deux épisodes, on est pas deux.
Ouais, mais mine de rien, tu sais, l'interview, c'est quand même un exercice, hein.
Ouais, c'est pas simple. C'est pas facile.
C'est un exercice. C'est pas qu'on est en train de dire qu'aux invités qu'on veut pas deux, hein. Loin de là. Hein. Mais c'est juste qu'on était habitués à nos conversations à deux.
Ouais. Mais j'adore cet exercice-là, justement, parce que j'apprends beaucoup, j'apprends énormément. J'ai appris d'Aniela, j'ai appris de Kineba, mais c'est des mines d'or à chaque fois. Et franchement, à chaque fois que nous-mêmes, on est émerveillés des épisodes, hein.
Ouais.
Faut pas croire, donc...
Et c'est un réel plaisir au montage. Parce que c'est vrai que la saison précédente, comme c'était un peu nos discussions intimes, ouais, parfois un peu lourdes,
ouais,
c'était pas toujours évident de les monter, alors que là, genre, ouais, je monte plus vite. Hein.
Ouais. C'est... Surtout que, ouais, ouais, enfin, on a eu de la chance et...
Elles sont superbes.
Ouais, elles sont superbes, ouais.
Les prochains aussi seront
superbes. Donc, on vous réserve plein de surprises. Restez avec nous.
Ben ouais, donc... Bon, c'était nous, hein.
Bon, c'était nous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, enregistrer les épisodes. Faites-les écouter à vos mamans. Non, pas aux mères. Mais.
Et mine de rien, attends, l'épisode sur le burn-out, il y en a plein, ils ont écouté en famille.
C'est vrai?
Ouais. Ouais, mais on m'a écrit ça, ils ont écouté en famille. D'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont dit.
God damn.
Et donc, aussi, sur Apple Podcasts, on compte sur vous.
Ouais. Pour mettre des étoiles.
Les étoiles. Ça aide.
Ça référencé.
Ouais.
Salut!
À bientôt!